Scène 1, extérieur jour, un matin de juin 2025. Adèle Exarchopoulos m'a donné rendez-vous dans un café près de la gare de l'Est à Paris.
Le train, il est à quelle heure?
Je crois qu'il faut qu'on soit là-bas pour 15h15, je crois, si je dis pas de bêtises, d'ici 30-40 minutes.
Ah ouais, ok. Faisons efficace alors.
Ok.
L'une est en terrasse pour un café, l'autre nous invite à en boire un chez elle. Elles sont au cinéma en même temps, en ce moment, et dans des films très différents. Ce matin, je vous propose la réécoute de deux totémiques en un. Adèle Exarchopoulos, rencontrée en juin 2025, et Charlotte Rampling, rencontrée en avril 2023. Deux comédiennes, deux générations, deux pays, réunies le temps d'une heure de radio. Une Française et une Anglaise qui ont commencé leur parcours avec une palme d'or. Pour Adèle Exarchopoulos, ce fut « La vie d'Adèle » d'Abdelatif Kechiche. Pour Charlotte Rampling, ce fut « Le knack et comment l'avoir » de Richard Lester. Un totémique double ration donc, avec deux femmes qui se présentent au micro avec un propos net et le visage nu. D'accord l'une puis l'autre pour sortir des sentiers battus de la promo. Scène 1, extérieur jour, ça commence avec Adèle Exarchopoulos.
Totémique, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
J'aimerais qu'on écoute le tube que vous avez choisi.
Il n'est pas très joyeux. Je vais pas chanter, hein.
Mais si.
Ah non, mais je suis catastrophique. Impossible. En plus sur ça.
Pour ce matin, Adèle Exarchopoulos a choisi la chanson des vieux amants de Brel.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol.
Pour moi, c'est une des plus grandes chansons d'amour de tous les temps. Après, une fois de plus, c'est dans ma projection de jeune femme. J'ai jamais vécu une histoire d'amour comme il l'a décrit sur des années où...
Bah, vous n'avez pas l'âge.
C'est vrai, j'ai pas l'âge. Mais dans ma projection de ce que c'est de tendre et de cruel, une longue histoire d'amour avec des concessions, des déceptions, des... Puis le vrai amour, quoi, sans te juger, sans t'appartenir, parce que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a un âge où tu dépasses ça et que le...
On va mourir ensemble, que toi et moi, et tu seras ma colombe.
T'atteins quelque chose de beaucoup plus profond en termes de preuve d'amour et de juste accepter d'être toi-même en face de quelqu'un et qu'il le soit lui aussi, quoi. Ou elle aussi.
C'est assez romantique, quand même.
Moi, je suis maxi romantique.
Ah ouais?
Ouais. Enfin, je sais pas comment on décrit le romantisme, mais moi, j'aime l'amour. Pour moi, c'est une déclaration d'amour à l'amour, cette chanson. Moi, j'adore quand les gens me racontent leurs histoires d'amour. Je sais pas, je suis en scooter, je vois des gens s'embrasser ou sur le quai de la gare. J'adore. Je trouve que sans amour, de toute façon, il nous reste rien, en fait.
Comment vous l'avez découvert, cette chanson?
Je sais plus si c'est ma mère ou une copine.
C'est fort si c'est votre mère qui vous a fait écouter ça.
Elle est toujours avec mon père. C'est rare, mais elle l'est.
C'est ça que vous avez eu comme modèle?
Moi, j'aime beaucoup comment mes parents s'aiment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fatal sans jamais l'être. C'est-à-dire on est une équipe, on est une famille, un amour ultra familial. Et en même temps, tu ressens quelque chose d'amoureux chez eux. Enfin, comme quand t'es amoureux et que tu vois même pas ce qu'il y a autour, quoi. Parce que moi, des fois, je suis très proche de mon père, je lui pose la question, mais ça t'est déjà arrivé de... Il me dit, mais ça ne me traversera même pas l'esprit, on est une famille.
Vous admirez ça?
J'admire aussi les gens courageux qui partent après 20 ans de mariage parce qu'ils sont plus heureux. Je pense que tout acte d'amour est assez courageux, que ce soit de quitter, de pas retenir quelqu'un. Ce que j'admire, c'est les gens qui aiment sans jugement, quoi. Parce que je trouve ça quand même très dur.
Et plus le temps nous fait cordage, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants?
Bien. Qu'est-ce que ça a changé, l'amour ouf?
J'ai vu un film devenir comme un jeu d'enfant, mais pour une autre génération. C'est-à-dire que c'est la première fois que des fois on m'arrête uniquement pour me parler, me dire des choses où il n'y a rien de plus beau, quoi. Hier, j'ai regardé ce film avec mon mari, avec qui je suis depuis 15 ans, on a eu envie de faire un autre enfant. Putain, la cabine téléphonique, ça me rappelle tellement mon enfance. J'ai eu l'impression que ce film est rentré quand même dans le cœur des gens et des jeunes gens. Et ça, ça m'a touché. Et puis moi, intimement, ça a été un tournage qui a été particulièrement magique parce que j'ai rarement vécu une telle ambiance sur un film. Raphaël Quenard, c'est devenu un ami. Zadie, François, c'est devenu des gens que je vois pas tous les jours, mais que je vois.
Et c'est facile de jouer avec ses amis ? C'est plus simple que de jouer avec des gens qu'on connaît pas du tout ?
Moi, je les connaissais pas très bien. Heureusement, parce que je pense que c'est beaucoup plus dur. Moi, par exemple, on s'est toujours posé la question avec une Leïla Bekti de se dire, mais mon Dieu, c'est tellement intime ce qui nous lie, c'est-à-dire la famille, les enfants, que demain on a fait la flamme ensemble, mais il y a quelque chose de tellement démesuré. Enfin, elle jouait Alexandra, une grosse dingue, je jouais un gorille. Enfin, il y avait quelque chose où, du coup, ça ne touchait pas, quelque chose d'intime dans le jeu. Demain, on doit jouer ensemble, chose que je me souhaite. Je serais quand même très intimidée de me dire, attends, j'aurais l'impression de lui mentir, quoi, c'est très bizarre.
Est-ce que vous visualisez ce que vous allez jouer avant de le faire ?
Non, c'est rare.
Alors comment vous préparez ?
Déjà, moi, je trouve qu'on ne parle pas assez, alors que moi, je trouve que ça devrait être limite obligatoire, mais moi, j'aime bien bosser avec des coachs, Daniel Ricourt, Daniel Marchaudon. C'est des gens avec qui tu vas faire plusieurs passes du scénario, tu vas le lire et qui vont être comme une thérapie de ton personnage, c'est-à-dire ils vont te donner aucune réponse, mais ils vont te poser énormément de questions. Et t'arrives avec ton personnage un peu armé parce que t'as traversé tout ce qu'il a traversé en remettant tout en question et t'arrives le jour J, t'es libre, t'as juste besoin d'être au présent et très disponible. Donc ça, je l'ai fait un peu trop tard, mais maintenant, je le fais beaucoup.
Pour quel rôle vous avez pris un coach, par exemple ?
L'Amour Ouf. Ouais. En fait, L'Amour Ouf, justement, je l'ai découvert comme ça. C'est-à-dire que les deux jeunes, Mallory et Malik, sont allés voir Daniel Marchaudon.
Qui est coach.
Et j'ai dit, bah vas-y, Malo, viens, je viens avec toi, parce qu'en vrai, on joue la même personne. Et je lui ai dit, mais je peux venir te voir seul ? Il m'a dit oui. Et j'ai dit, bah vas-y, je vais essayer. Et j'ai adoré. Je peux avoir un deuxième verre, s'il vous plaît, madame ?
Ouais.
Merci beaucoup, mademoiselle.
Et le film de votre génération à vous, c'est quoi ?
De ma génération, c'est-à-dire que j'ai regardé énormément de fois, il y en a beaucoup. Hein. Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, Jeux d'enfants, Marion Cotillard, Guillaume Canet. Matrix, il m'a... Ouais, il m'a perturbé. Je le regarde chaque année, Matrix. Je trouve ce film immensément riche spirituellement, c'est-à-dire que ça m'avait fait un choc de me dire quel est le parallèle entre le monde qu'on m'impose, l'illusion qu'on a tous et qui en plus dans cette génération est assez plus poussée, l'intelligence artificielle, les applications, enfin il y a quelque chose qui va très vite, tout se consomme vite, et la vraie liberté, c'est-à-dire pas ce qu'on t'impose, comment tu dois être, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est pas à la mode, qu'est-ce qui plaît pas, comment l'autre aimerait que tu le séduises, qu'est-ce que la société attend de toi, c'est quoi ton rapport au succès, c'est quoi ton rapport à l'ambition, c'est quoi ton rapport à l'argent.
Parce que vous, vous êtes au cœur de ça quand même, de ce que, justement,
de... La Matrix.
Bah, de la Matrix, ouais.
Ouais, c'est vrai.
Du succès, de la notoriété, des modes, du regard des autres.
Ouais, mais...
de tout ce qu'on projette sur vous et justement de ce qu'on attend de vous, en fait.
Mais moi, mes amis, ils me le disent souvent. Ils me disent, si les gens, ils savaient... Mais en rigolant de si les gens, ils te voyaient comment moi, je suis chez mes parents ou qu'est-ce que je fais le week-end. Enfin, mais quand je dis si les gens, ils savaient, c'est pas que je suis foncièrement une autre personne. C'est que... Ben, ils seraient peut-être déçus du niveau de simplicité, en fait, que finalement, on aspire tous à être dans nos vies. Je pense que les gens... T'as envie de choisir d'être acteur, mais tu choisis pas forcément d'être connu. Maintenant, ça fait partie du jeu, faut pas venir se plaindre. Mais je ne suis absolument pas celle qu'on voit en couverture de magazine. Et je mens en promotion, alors que je mentirai jamais quand je joue un rôle. Enfin, je mens en promotion, là, on dirait que je viens de mentir pendant une heure. Non, mais ça m'arrive de ne pas dire entièrement ce que je pense, parce que j'ai la flemme que ce soit repris, que j'ai envie de m'éviter à une polémique, ou que c'est aussi extrêmement bizarre d'être dans une position où tu t'adresses à des gens que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, avec lesquels tu peux pas débattre, qui vont... Ça nous est tous arrivé de qu'un journaliste il reprenne une phrase qu'on a dit, qu'il la détourne. Enfin, on a tous eu des petites, je pense, déceptions à quelques niveaux de se dire « Waouh, c'est pas du tout le fond de ma pensée ». Mais oui, je suis complètement au cœur de cette Matrix. Et d'ailleurs, il faut l'assumer aussi. C'est-à-dire que moi, je fais de la mode parce que ça me permet de faire des films comme Rien à foutre où je me maquille moi-même dans les toilettes de l'aéroport et que c'est des petites économies. Bon, bah, à côté, si je peux m'amuser dans la mode et faire de l'argent alors que ce n'est pas ma passion mais qu'il y a une facilité, faut l'assumer. Évidemment que c'est ce à quoi on joue. Enfin, en tout cas, moi. On devient des produits, mais comme nous, on peut trouver qu'on peut frôler ça dans nos métiers.
C'est-à-dire ?
Bah, la promotion, la représentation, enfin, il y a quand même un masque. Je vois très peu de gens arriver sur le tapis rouge en étant naturel. Tu rentres quand même dans une forme de jeu. que tu le veuilles ou non. Après, à toi de savoir si tu prends goût, à toi de savoir si, pour quelle raison tu le fais, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du masque. Et dans ce métier en général, moi j'adore jouer, mais la célébrité, c'est autre chose. Les gens te fantasment un peu, quoi, dans le bon comme dans le mauvais.
Comment vous mettez ça à distance? On a l'impression que vous le vivez super bien.
Alors, comme tout le monde, ça m'arrivait de taper mon nom, de lire des horreurs et de me dire « Waouh, c'est ça qu'on pense de moi ».
Ah, c'est-à-dire d'être devant Google, de faire...
Mais tout le monde le fait. Par les gens qui vous diront « Non, je me suis jamais googlisé », sont des immenses menteurs. Tu le fais après plein d'événements où t'as fait de la promo. Enfin, en fait, malheureusement, même si tu le fais pas, de toute façon, on va te l'envoyer. Donc, et d'un coup, je vais me dire « Waouh, les gens pensent ça de moi » ou « Je renvoie cette image, donc t'as un truc bizarre ». Mais après, ça dure 2 minutes et ça passe, dans le sens où... Voilà, il n'y a rien de méchant ou de méprisant, mais c'est juste que le monde virtuel comme ça, Internet, etc., ça reste quand même une bande de lâches, souvent pas très jojo. Parce que ça nous arrive tous de se dire « Ah, elle est pas jolie sa robe. Ouais, j'aurais pas dit ça comme ça. » Mais de là, prendre le temps de l'écrire, tu dois quand même baigner dans un ennui profond. Où... C'est compliqué quand même. Enfin, les Twitter, les mauvais commentaires. Donc il y a quelque chose où j'ai la bonne distance parce que je pense qu'il y a...
Ça vous atteint pas?
Ça va m'atteindre 2 minutes à l'ego, mais ça a très vite passé. Heureusement, je n'ai pas passé mon après-midi sur « Attention, Alexia du 32 a dit que j'avais des grandes dents. » Ça fait 31 ans que j'ai des grandes dents, je ne l'ai pas découvert grâce à Alexia. Donc ça va. Mais par contre, c'est pour ça que ma vie, elle reste privée. C'est parce que si d'un coup, ça touche quelqu'un d'autre que moi, là, je me connais, ça, je vais vraiment, vraiment mal le prendre.
M-I-K-I, Mickey, dans Totemic, avec ce titre « Particules ».
Telle avec elle, on peut sans que se réveille, qu'elle te raccère. Quelle heure il est dans ta tête, tu prends la poudre des scampettes. Tu qu'un fichier qui se jette, qui se remplace. Et si mon tête vibre, c'est que Vinted ou ma grand-mère. Et que toi qui peux te taire dans ces moments. Il me suffirait d'un mot, mais le grain de ta voix me fait déjà savoir que c'est fait sa place auprès de toi. Je suis qu'une particule qui orbite autour de toi, qui orbite autour de soi, qui orbite autour de... Je suis qu'une particule, quand je m'approche je me brûle. Si je m'éloigne je te perds, à quoi ça sert? Je suis qu'une particule. Ma coupe de blaireau, alors que c'était peut-être la terre. Des terres, des terres, des terres, des terres, des terres. Toi t'étais tellement beau, t'es beau quand tu rougis quand tu parles d'elle. Mais dis t'inquiète, c'est pas la peine. C'est quand même pas une top modèle, mais qu'est-ce j'en ai à foutre? Puisque tu cèdes.
Adèle Exarchopoulos, Rebecca Manzoni. Manzoni.
Manzoni.
Purée. Adèle Exarchopoulos, Rebecca Manzoni, sur Totemic. Adèle Exarchopoulos, Rebecca Manzoni, à Totemic, sur France Inter.
Est-ce que vous avez des tics de langage, vous?
Je pense. Tu vois ce que je veux dire? Bref, genre, sûrement. 2-3 trucs comme ça, ouais.
Est-ce que parfois, pour que le rôle, pour que les dialogues soient plus naturels, ou on a tendance à s'appuyer un peu là-dessus?
En tout cas, il y a des gens chez qui tu peux absolument pas te permettre ça, et tant mieux, parce que sinon tu baignes dans une zone de confort qui s'éloigne de ton personnage en termes de diction et de tic de langage. Jeanne, par exemple, impossible, Jeanne Herry,
c'était pour « Je verrai toujours vos visages ».
Exactement. Et là, je refais un film avec elle, et tout de suite, elle m'a réannoncé, alors que je savais, ça m'avait marqué. Et elle avait raison à chaque fois, elle me disait « Si j'ai écrit une virgule, alors évidemment que s'il y a quelque chose... qui me paraît moins juste au vu de la situation de mon personnage. Bien sûr, on en discute, ça reste collectif. Mais elle écrit ses textes avec une... comme des respirations, quoi, comme un cardiogramme. Les virgules, les points, la ponctuation, tout est très précis, c'est vraiment pas au hasard. Quand je me réfugiais dans un bref ou quoi, elle disait « Non, non, c'est pas le texte, suis mon texte, s'il te plaît. » Et elle avait raison.
Ça tenait à un bref.
Parfois, ça tient à un bref. Bah, bref, ça raconte quelque chose sur les gens, quand même.
Ça raconte quoi ?
J'en sais rien, mais l'éthique de langage en général, de dire tu vois ce que je veux dire, comme ce besoin d'être bien clair ou précis, bref, de balayer quelque chose comme si ça comptait pas. Sans psychologie de comptoir, en tout cas, il y a des personnages auxquels ça peut pas du tout coller, je pense. Par contre, moi, on vient souvent me dire, et pour être très sincère, j'ai pas besoin qu'on me le dise, je sais que j'ai une diction qui peut être marquée, qui peut paraître rurale.
Rurale ?
Je sais pas comment on dit, mais trop moderne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à un peu essayer de catégoriser toutes les formes de diction. Sabrina Ouazani, Raphaël Quenard, moi... Enfin, des gens qui ont leur propre manière de parler, ça devient vite un sujet. Mais je pense qu'on peut se permettre de parler comme ça dans la vie et essayer surtout de travailler ça quand il s'agit d'un rôle.
Qu'est-ce qui vous déstabilise ?
Par exemple, ce qui va beaucoup me déstabiliser, c'est rare, mais si je suis en train de jouer et que je pense à ce que je fais. Et là, je me dis, bon, bah, c'est que la scène, elle est catastrophique. Ben, c'est comme quand t'embrasses quelqu'un et que ça peut arriver la première fois de dire « Mon Dieu, j'espère qu'on ressent pareil » ou « Ah zut, je l'ai mordu » ou je sais pas, mais un truc où tu penses au moment pendant que t'es en train de le vivre et que du coup t'es pas trop dans un laisser-aller, quoi.
Mais alors, vous pensez à quoi ?
Quand je joue ?
Ouais.
J'écoute. Je crois que le jeu, c'est beaucoup l'écoute, quoi. Comme dans la vie, si t'écoutes pas ce qu'on te dit, ça peut pas être très sincère ce que tu réponds. En fait, souvent, je trouve, quand on a un scénario, il y a toujours des choses dans notre projection qui nous font peur. Waouh, cette scène, je vais galérer. Oh, c'est une immense scène d'émotion. Et souvent, finalement, ça s'avère être les scènes finalement les plus simples parce que tout y est et qu'il faut essayer de pas faire grand chose et de pas forcer. Comme quand t'es ému et que t'as pas envie de l'être dans la rue, comme quand t'es ivre et que t'as pas envie de l'être devant les gens. Mais parfois, par contre, des scènes du quotidien ou banales, j'aurais pas un exemple précis en tête, mais c'est le rien qui est dur à faire.
Depuis vos débuts et le rôle qui vous a révélé, donc la vie d'Adèle, quel est le rôle qui fait que vous vous êtes affranchi enfin de ce personnage, qui portait le même prénom que vous en plus ?
Ouais. Bah déjà, affranchi aux yeux des gens, je sais pas, parce que j'ai jamais pensé, mais moi personnellement, c'était très dur de retourner tourner après. Je me disais, mais je vais être rien sans ce fonctionnement qui te permet de tout naturaliser, c'est-à-dire sans marque au sol, sans texte, sans feuille de service, sans condition, dans quelque chose où chaque jour est une immense improvisation, quoi. Et dès que je suis allé à quelque chose de scolaire, notamment dans les anarchistes, je me suis dit « Waouh, je vais galérer, j'ai du travail, en fait. »
Justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce film un peu, les anarchistes, parce que là, on sort de La vie d'Adèle, donc très contemporain, les anarchistes... C'est un film où vous êtes en costume d'époque.
C'était horrible, c'était exceptionnel. J'ai rencontré des gens qui font partie de ma vie et des acteurs immenses. Émilie Depresac, Karim Leclou, Tahar Rahim, Swan Arlo, c'était vraiment... Mais moi, en tout cas, intimement, je me disais, mais qu'est-ce que... La scène, notamment, où je devais m'adresser à des gens... Et puis,
la scène où vous faites un discours.
Ouais, oh là là, quelle cata. Par exemple, j'y ai pas pris de plaisir. Aujourd'hui, si je la réessayais, peut-être que je la travaillerais différemment et je prendrais du plaisir. Mais j'étais dans un truc d'illégitimité complet où je me disais, mais c'est catastrophique ce que t'es en train de faire. Et tout le monde te regarde.
Pourquoi vous disiez ça ?
Parce que je pense que d'un coup, j'étais hors de ma zone de confort. En plus, dans un système plus pédagogique, plus scolaire, enfin plus classique. Avec une diction qui est très loin de moi et où d'un coup je me disais voilà, j'ai pas assez travaillé pour me trouver suffisamment juste. Enfin, c'est pas une scène que je regarde et je me dis ah, je suis fier, c'est bien. Bon, après, c'est très rare de se dire ça, voire quasi impossible, mais.
Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous le dire quand même ? Dans une scène, vous dire là, je suis contente, c'est vraiment bien.
Je me suis déjà dit, j'aurais pas pu mieux faire. Genre, je pense que. C'est mon maximum. La scène au téléphone avec l'opérateur Orange dans Rien à foutre, C'était dur de la faire. J'étais au téléphone avec la réalisatrice. En plus, on rigolait parce que ça, on inventait des noms d'abonnements. Abonnement Lyon pour 4 gigas, abonnement TIC. Enfin bref, c'est filmé un peu comme un documentaire. Il y a des gens dans la rue, donc c'est toujours comme dans la vie, très étrange de pleurer devant des gens. Enfin, je sais pas comment expliquer. En marchant, c'est un truc qui est... C'est vraiment que t'es au bout du rôle quand tu pleures dans les rues de Paris, on va pas se mentir. Souvent tu vas chez une amie, tu restes dans ton lit, quand t'es submergé dans le métro ou dans un lieu public, enfin moi en tout cas j'ai un truc, je sais pas si c'est de la pudeur ou de la bêtise, mais qui est très... Donc j'avais peur de cette scène, et cette scène je me suis dit, ah cool, je sais pas si j'aurais pu mieux faire, et le film où je me suis dit ça, c'est La vie d'Adèle. Mais parce que j'aurais pas pu mieux faire dans le sens où... Enfin, de toute façon, il n'y avait pas de scène, donc j'aurais pas pu l'amener ailleurs que ce qu'on a réussi à faire naître Léa et moi, quoi.
Mais rien à foutre, justement, comme c'est, il y a un côté documentaire où c'est, on a l'impression que tout est naturel, ouais. On n'est pas dans la composition du tout. Ouais. Moi, je trouve que c'est ce rôle-là aussi qui vous a permis de vous affranchir.
Ça me fait plaisir parce que c'est un de mes rôles préférés que j'ai joué. Enfin, c'est un des films dont je suis plus fier. Je trouve qu'un premier long métrage, évidemment, il y aura toujours des défauts et des maladresses, surtout dans un premier long, il y a quelque chose d'un peu gracieux et en même temps très fragile parfois. Mais franchement, vu comment on l'a fait, les conditions dans lesquelles... Enfin, moi, je l'aime beaucoup, ce film. J'avoue.
Pourquoi vous l'aimez à ce point ?
Ce que ça raconte, je le trouve intelligent. Cette errance, ce que ça raconte sur le monde low cost, sur le capitalisme, sans jamais vouloir le revendiquer. Enfin, je l'ai trouvé intelligent, en fait, le film. Mais c'est vrai que cette manière d'amener, je trouve que c'est là où l'art a une puissance immense. C'est que d'un coup, tu crées quelque chose de politique sans jamais tenter de le rendre politique, juste humain. Chose qui parle beaucoup plus à tout le monde que des gens en costume qui te disent des phrases où tu te sens bête alors que finalement ils n'ont pas dit grand chose de profond.
C'est pas prêcher les convaincus.
Ouais, exactement. C'est vrai. Je dirais pas mieux.
Un autre film dont j'aimerais qu'on parle, c'est Sibylle,
ouais.
De Justine Triet. Mmh. Parce que dans ce film-là, vous jouez une actrice.
Je veux pas faire porter à mon enfant le poids de mon échec, le rendre responsable de mes désillusions. Je veux pas qu'il puisse penser une seule seconde qui m'a empêché de faire quelque chose d'essentiel pour moi. Je préfère qu'il souffre de mon égoïsme que de mon sacrifice.
En l'occurrence, si vous avortez, il souffrira pas du tout.
Dans Sibylle de Justine Triet, Adèle Exarchopoulos et Margot, une jeune actrice enceinte du comédien avec qui elle s'apprête à tourner. Le comédien en question est en couple avec la réalisatrice du film. Margot est au bord du désespoir et consulte Sibylle, qui est psy. Extrait avec Adèle Exarchopoulos et Virginie Efira.
J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible.
Non, mais je vous juge pas. Simplement, quand vous m'avez appelé la première fois, vous m'avez dit « j'ai besoin de prendre une décision ».
Jouer une jeune actrice qui prend ce film-là comme celui qui va compter le plus. Quelque chose qui la sauve, vu qu'elle est complètement déprimée et suicidaire juste avant.
Ce rôle-là, il est arrivé à quel moment de votre vie, Sibylle ? On est en 2019.
À un moment où je me sens comme mon personnage, c'est-à-dire c'est la première fois en casting que j'ai dit à quelqu'un je le veux vraiment ton rôle. Jamais j'aurais osé dire ça à quelqu'un avant parce que déjà je trouve ça lourd. Je pense, je suis pas réalisatrice, mais qu'il y a quelque chose aussi qui s'explique pas, qui va avec ton personnage. Et je sentais un truc en commun avec cette fille de désespoir, j'ai envie de me reprouver que je suis capable en fait.
Parce que c'est un moment où vous vous sentiez plus capable ?
Je venais d'accoucher, je prenais mon fils sur mes tournages. Je l'allaitais à Belgrade sur le film de Ralph Fiennes. Franchement, c'était un peu dur. Enfin, un peu dur. Toutes les mamans traversent ça et allaitent au travail. Hein. Mais je veux dire, il y avait quelque chose d'assez... J'étais jeune, j'avais 22 ans. J'étais sur un tournage. En même temps, j'essayais de trouver la bonne place entre les deux. Et j'avais pas travaillé pendant ma grossesse. Il y avait plein de films qui avaient sauté, mais c'était mon choix, donc c'était pas grave. Enfin, je pouvais pas les faire, j'étais pas assuré. Enfin, plein de films, j'abuse. 2-3, mais qui comptaient. Il y avait quelque chose où je me disais, waouh, est-ce que je suis encore capable d'être à la hauteur de certains rôles ou pas ? Et quand j'ai passé le casting, je me suis dit, vraiment, je lui ai dit pleine tête, je lui ai dit, j'aimerais vraiment avoir ce rôle, moi. Et je me rappelle, elle a explosé de rire, je me suis dit, j'espère que c'était pas une erreur de lui avoir dit.
Depuis vos débuts, depuis une quinzaine d'années maintenant, comment a changé votre regard sur votre métier ? Est-ce qu'il a changé déjà ?
Le sentiment n'a pas changé, c'est-à-dire que quand j'arrive sur un plateau, j'ai quand même un plaisir très enfantin. Et ça, je cherche toujours à le cultiver, de me dire, tiens, imagine, c'est ton dernier. Et puis un truc de privilégié, quoi, de faire ce que j'aime. J'en parle encore avec des amis ce week-end, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une passion dans la vie, quoi, que ce soit cueillir des marrons, ouvrir un resto, ou faire du cinéma. Il y a quelque chose de très précieux de vivre de sa passion. Donc...
Sur un plateau, je garde la même sensation. Sur le business, non. J'ai beaucoup moins de naïveté. Je suis arrivée avec un gros film, avec beaucoup de polémiques. Très vite, j'ai compris que la forme compte plus que le fond, que ça peut être un milieu avec parfois des déviances, que les gens ne tiennent pas toujours leur parole, qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement. Mais tu peux que les prendre personnellement dans le travail. Enfin, c'est comme si je vous dis, ton boss, il dit quelque chose et il traite tout le monde comme ça, mais il te l'a dit à toi, c'est adressé. Donc forcément, si tu te sens rejeté ou mal aimé, tu le prends personnellement. Mais il faut essayer de ne pas le faire, parce que ça reste un milieu où il y a aussi beaucoup d'ego, beaucoup de névrose, mais aussi beaucoup de gens heureux. Et en tout cas, moi, je sais que quand je suis sur un plateau, je me dis, je vois pas où, ce que je saurais faire d'autre avec autant de plaisir.
La toute dernière séquence de l'émission, c'est une photo.
Ah mais oui, c'est vrai, bien sûr.
Alors, d'habitude, c'est un Polaroid.
Ouais, je m'en rappelle.
Mais là, il est mort.
Ok. Ouais.
Donc, est-ce que je peux faire une photo avec le portable ?
Bien sûr.
Ok. Alors, voilà, il y a les amants, les vieux amants qui s'est remis en route, donc je vais arrêter. Voilà. Ok. Prête ?
Je souris à plein dents.
Je crois qu'il y en a une où vous fermez les yeux. Ah, celle-là. Celle-là, ça va ?
Ouais, très bien. Bah, de toute façon, bon. Hilarant. C'est... Un oignon.
Quoi ?
Un oignon. Catastrophique, on dirait que je dors en rigolant. Celle que tu veux. Bon, celle-là, on dirait que je suis ivre.
Non, je vais pas prendre celle-là, je vais pas prendre l'oignon. Ce qui est drôle, c'est que la dernière fois que je vous ai prise en photo...
C'est pizza, on m'en a beaucoup parlé. Ah, c'était
oui.
Ça ?
Ouais, pizza à l'ananas.
Je m'en rappelle. Jamais de la prendre non plus.
Donc, ce sera celle-là.
Avec plaisir.
Pas prêter rien du tout, ça ira.
Oui, oui, bah de toute façon, c'est ma tête, hein.
C'est quoi votre tatouage, là ?
C'est mon ange. Non, mais je les regrette tous.
J'en les
ai
tatouages ?
Oui, catastrophique. J'en ai un roumain sur la côte.
En roumain ?
Ouais. Parce que j'adore. Je faisais un voyage avec ma meilleure amie d'enfance en Roumanie. Et donc, c'est une déclaration d'amitié, quoi. Il y a écrit « Pour toi » un milieu de fois, mais en roumain. « Pentru tine de omie et de or ». Là, il y a écrit « Mon ange pour ma cousine tunisienne ». Et bon, alors, le pire, c'est celui dans le dos. J'ai honte. C'est une catastrophe. C'est un dessin old school que j'ai fait à Bangkok à 15 ans. Enfin, catastrophique. Je déconseille les tatouages, moi. Je serais tellement plus joli un corps nu. Après, c'est très subjectif, hein, mais si c'est à refaire, je ne le referai pas.
Merci beaucoup, Adèle Exarchopoulos.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Avant la rencontre avec une Anglaise, le nouveau morceau d'un groupe de Sheffield. C'est Pulp avec Tina.
Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display
of everyday sexuality.
France Inter. Totemic. Rebecca Manzoni.
Totemic ce matin, c'est une double rencontre pour un épisode unique. À suivre, scène 2, intérieur jour, dans le salon de Charlotte Rampling. Nous étions en avril 2023 et elle venait d'enregistrer un disque conçu par Léonard Lasserie et Elisa Point. L'album s'intitule « De l'amour », mais quelle drôle d'idée. J'allume le micro, Charlotte Rampling me chuchote « Je dois parler ». Je réponds « Oui » et lui propose même un texte à dire. Est-ce que vous avez travaillé votre voix ?
Oui. Et d'ailleurs, quand j'entendais ma voix dans mon premier film, je dis, c'est pas possible. Cette voix-là, c'est pas comme ça que je parle.
Pourquoi
c'était pas comme... parce que c'était la voix était portée plus haut et je l'aimais pas du tout. Parce que c'était trop haut porté, ma voix. C'est un peu comme ça. On parlait un peu comme ça. Parce que quand on entend les films d'avant aussi, les voix étaient beaucoup plus portées comme ça. Vous voyez ?
Et donc, vous vous êtes dit ça quand vous vous êtes vu à l'écran ?
Oui. Et c'est là où j'ai commencé intensément à changer ma voix. Pas la changer, mais oui, la développer. Voilà, j'ai pris des cours avec la meilleure de Londres, je me souviens, une formidable vieille dame, qui m'a fait travailler ma voix. Très vite, j'ai réglé ce problème.
Et vous avez une signature vocale, vous ?
Oui, maintenant, ça me plaisait. Je sentais une richesse que je n'avais pas sentie avant, avec la voix. On prenait ses cours et tout ça, et j'entendais, quand je voyais les films, ouais, je peux encore... C'était quand j'étais invité à faire un disque, il y a peut-être presque 20 ans, que j'ai repris des cours de chant. Mais c'était toujours chanter, parler que je voulais. Parce que je pouvais peut-être chanter, mais j'ai dit, je ne suis pas chanteuse et je ne veux pas aller apprendre à avoir une très belle voix chantée, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais d'interpréter les chansons, ça, oui, ça c'est un langage.
Est-ce que justement, chanter vous a mené au théâtre ? Parce que le théâtre, pour vous, c'est très récent, en fait.
Non, pas très récent. C'était dans 2005, 2006.
Oui,
mais... C'est récent, c'est vrai.
vous avez commencé les premiers films, c'est le milieu des années 60. Le théâtre est quand même arrivé 40 ans plus tard.
C'est vrai. Et pourquoi c'est arrivé, en fait ? C'est pas que ça m'intéressait pas. J'ai dit, mais c'est pas ma place. Je veux pas être dans ce cas. Je veux pas porter ma voix pour que tout le monde l'entende. Je veux pas...
J'ai l'impression, tel que vous le dites, que le théâtre, pour vous, c'était lié à une espèce de, pas d'outrance, mais de surjeu un peu, non ?
C'est le surjeu. Moi, je voulais toujours être dans le naturel, la nouvelle vague, sorte de mouvement où on était dans le vrai, on était sur les rues, on se la jouait pas. Parce que c'était notre génération, c'est le premier. On se la jouait un petit peu avant, dans les années 50. C'était joli, mais c'était acting. On voyait l'acting, même si c'était magnifique. J'adore tous ces films. Nous, on voulait justement apporter notre voix plus... Oui, bah, juste... Je dis le voix de la rue, la vraie voix de la vie, quoi. C'est ce que je disais, moi. Je veux être absolument authentique, je dis.
On va écouter une des chansons du disque dans l'émission. Et j'aimerais que vous la choisissiez.
Je pense que ce serait magnifique. Je ne sais pas si c'est le titre.
Magnifique, n'est-ce pas ?
Oui.
Un amour comme ça.
Oui. Je trouve que c'est une grande chanson.
C'est une histoire de fantôme.
Oui, mais ça fait partie de ma vie, ça. Donc c'est pour ça que pour moi c'est grand. Parce qu'il s'en va à la fin. C'est très scénique. Justement, les textes d'Elisa sont très scéniques. C'est comme des bouts de fil. Et en les chantant, on les réalise d'une manière... parce que c'est très court... Donc on peut avoir une histoire d'amour dans cette chanson absolument incroyable. Et tellement je croyais dans cette chanson que quand je l'entends, j'y crois chaque fois. C'était un peu presque un jeu pour moi. Et on la faisait comme ça, comme si on se rencontrait les après-midi pour « Tiens, on va essayer encore une chanson, pourquoi pas ?» Comme si on était des gamins. Il n'y avait pas d'enjeu, il y avait juste nous.
Magnifique, n'est-ce pas ? C'est le titre de ce morceau, extrait du dernier album de Charlotte Rampling.
La nuit, c'était toi parfois, à te glisser dans mon lit, mieux qu'un rêve si près de moi, comme si tout était écrit. Le jour, c'était moi souvent, ce regard pressé de te voir, ce désir encore patient, avant de t'apercevoir. Magnifique, n'est-ce pas ? Un amour comme ça. A-t-il existé ? L'a-t-on inventé ?
n'avance pas son pas mieux qu'une danse se trouble dans la voix en sa seule présence. Ses baisers est toujours là sur mes lèvres. La chanson de ses pensées revient, me brûle de sa fièvre. Nous errons dans la lumière. L'ombre a bu nos émotions. Avons-nous aimé hier? Ou était-ce une illusion?
Charlotte Rampling est dans Totemix ce matin. Vous dessinez quel personnage avec cette série de chansons ?
C'est le personnage que j'ai toujours aimé me promener avec dans ce que je fais. C'est-à-dire, c'est un personnage un petit peu distant, un petit peu difficile, pas très approchable, mais quand même très approchable, si on connaît justement la route. Il y a une théâtralité naturelle là-dedans, qui n'est pas forcée en moi. Je l'ai beaucoup joué dans ma vie, parce qu'elle est là, elle existe en moi, et les gens pensaient que j'étais comme ça, et j'étais comme beaucoup de choses, aussi autres. Mais ça m'allait bien.
Ça vous amusait même, non ?
Ça m'amusait surtout, oui.
Vous parliez de distance. Vous l'avez cultivée ?
Non, c'est, je ne sais pas si c'est une chose qu'on peut cultiver, ça, d'ailleurs. Mais il fallait que je ne montre jamais ma peur, ni mon angoisse, ni mes anxiétés. Ça, c'était pour moi à gérer. Je n'allais pas les montrer à la vie. J'allais aller de l'avant et sauter dans le vide, si nécessaire, mais on n'allait pas me voir derrière, quand je rentrais chez moi, l'état dans lequel j'étais. Donc, je ne les montre pas. Et c'est sûrement cette distance, cet espace dans lequel j'ai géré depuis toujours. C'est-à-dire que la manière dont j'allais agir devait correspondre à une forme d'éthique personnelle, de respect aussi, parce que j'étais quelqu'un d'assez correct à l'intérieur de moi. Je n'étais pas fofolle. Je pouvais jouer dans le grand cirque, mais je savais en moi-même que j'avais un rôle autre à jouer, que je ne pouvais pas perdre pied. Et ça, c'était parce que, comme j'avais une tragédie dans la famille avec ma sœur qui a pris sa vie quand j'avais 20 ans, j'avais une responsabilité à la vie.
Dans son autobiographie intitulée « Qui je suis », coécrite avec Christophe Bataille, Charlotte Rampling évoque la mort de sa sœur aînée, Sarah. Sarah disparaît à l'âge de 21 ans, Charlotte en avait 20. 3 ans plus tard, elle apprendra qu'il s'agissait d'un suicide.
Premièrement, je ne pouvais jamais faire ça, de terminer ma vie avec ma main. Moi, je me suis dit ça.
Le suicide, donc.
Oui. J'allais pas le faire, ça, à mes parents, ni à moi. J'allais pas. La vie m'était donnée, donc il fallait. C'était une grande responsabilité de choix après dans la vie. Ça m'a freiné. Peut-être j'aurais été beaucoup plus crazy et beaucoup plus incontrôlable. Mais ça m'a littéralement terrassé, ça.
Et ça vous a donné une responsabilité face à la vie, où il était question finalement de l'honorer?
Oui, absolument. De les respecter, de l'honorer, de faire du bien dans la vie, d'essayer de tirer de tout ce qu'on fait un sens, comme on voudrait tous, mais peut-être ma quête à moi était extrêmement forte.
Oui, mais en plus, vous avez une façon de... Enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais une façon d'aborder les rôles où vous êtes là et où vous n'êtes pas là. On revient à la distance de tout à l'heure, non ?
Oui.
Dans quelle mesure vous êtes absente quand vous jouez ?
Je pense que je peux dire que j'ai trouvé le juste mesure, parce que c'est pas une chose consciente, ça. C'est comme ça que j'ai dû fabriquer ma vie, avec cette absence pour se protéger, absence pour disparaître, cette absence pour trouver un espace où on comprend plus rien et on veut avoir justement le silence pour comprendre. Tout ça, je vous dis, on n'analyse pas nécessairement dans la jeunesse, mais plus tard, on réalise qu'on a fait ça pour pouvoir grandir sans être trop atteint par l'autre. Le monde, les actualités, les douleurs, les tragédies, tout ça, pour ne pas être trop atteint par ça, pour pouvoir continuer. C'est un petit peu une forme de déni, peut-être.
Oui,
mais c'est un déni utile.
Oui, là, vous évoquez à nouveau la perte fondatrice, d'une certaine façon, de votre sœur, hein, de mettre les choses à distance.
Oui, ça, ça a dû développer ce qui était déjà sûrement en moi, ce que vous dites par rapport à cet espace de distance. Il y avait le mystère aussi, parce qu'il y avait dans mon regard un certain mystère. Et les gens, en interview au début, ils disaient, mais comment vous cultivez ce mystère? Ils disaient ça. Et je dis, mais je suis tout sauf ça. C'est pas moi qui est mystérieux, c'est les mystères qui m'habitent.
L'un des premiers films où Charlotte Rampling apparaît remporte la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1965. Le titre, Le Knack ou Comment l'avoir, The Knack and How to Get It, en VO. C'est le portrait d'une jeunesse anglaise en plein swinging London, ce moment de l'histoire où Londres fut le centre du monde pour la musique, la mode et tout le reste.
Ça, c'était parce que c'était un tout petit rôle au tout début. C'était, il y avait plein de filles, jolies filles qui étaient prises dans les rues comme ça. J'avais 17 ans dans The Knack and How to Get It. J'avais, Jackie Bisset était là, on est tous à Londres.
Jane Birkin,
voilà. Et on est tous, on avait une minute ou deux chacun à l'écran. Ça, c'était fun. Après, le fun est devenu parce que j'étais spotted par quelqu'un qui pensait que j'avais un certain look qui plaisait et une certaine attitude. Et là, c'était un sort de confidence. Sans savoir donc ce qui allait m'arriver. Donc je le faisais et je le faisais avec une telle joie de vie parce que je dis pourquoi pas, je me donne à ça et je n'avais pas peur parce que je ne pensais pas que ça allait être ma carrière. Autant le faire et puis après je ferais peut-être autre chose.
En fait, c'était l'innocence.
C'était le pur innocence. En fait, oui, c'est l'innocence d'un enfant. Allez, pourquoi on joue pas à ça ? Moi, je vais être ça, toi, tu vas être ça et on va inventer quelque chose, une histoire et on y va. C'était ça.
Et l'innocence, elle s'en bat dès le deuxième film alors ?
Elle s'en va petit à petit, pas tout de suite. Parce qu'on se cache, on trouve tout pour ne pas justement avoir cette douleur-là, la douleur de la conscience. On sait très bien que dans la vie, c'est tout un voyage pour devenir conscient. On est d'accord hein, à ça. Mais elle est venue, voilà. Et moi, j'aurais jamais accepté de ne pas le regarder en pleine face. C'est ce que j'ai fait dans la vie.
Finalement, alors que tout se passait à Londres dans les années 60, après le décès de votre sœur, c'est en Italie que vous jouez.
Oui.
C'est l'Italie qui vraiment vous a ouvert les bras.
Parce que je ne pouvais plus rester en Angleterre. Et l'Italie m'a trouvé.
Avec un film quand même hyper important, Les Damnés.
Mais c'était avant Les Damnés. Un metteur en scène adorable qui est mort récemment, Gianfranco Migozzi, m'a, out of the blue, envoyé un scénario à mon agent anglais. C'était juste après la mort de ma sœur, un an après. Pour ce film italien, que j'ai aimé l'histoire, j'ai dit, j'y vais. C'était Sequestro di Persona. C'est une personne, voilà, qui avait quelqu'un de sa famille séquestré. Donc c'était parfait, c'est une recherche. Il fallait trouver cette personne. Et c'est là le début, en fait, de mes... Parce que c'est Visconti a vu ce film, il a vu Georgie Girl et il a vu un autre truc.
Et c'est lui, donc, qui est venu vous chercher?
Oui.
Et comment ça s'est passé? Parce que là, vous interprétez une femme beaucoup plus âgée que l'âge que vous avez à l'époque. À l'époque, vous avez quoi, 24 ans, quelque chose
non,
comme
ça? Je pense, peut-être 23. Je l'ai dit, je ne sais pas jouer ce rôle. Je suis vraiment désolée, j'arrivais à mini-jupe, parce que c'était en plein années 60. J'ai pas trop compris le scénario, c'était traduit un peu bizarre, je savais pas comment lire les scénarios. Et quand ils étaient traduits comme ça, de l'italien à l'anglais, c'était un colosse truc. Et j'ai dit, mais je peux pas. Je savais pas l'importance non, du Visconti non plus, je connaissais pas, parce qu'on montrait pas du tout tous les films que vous montrez à l'époque. À Paris était un centre quand même de cinéma, d'art et d'essai, de tout. On n'avait pas ça du tout à Londres. On avait juste les films un peu américains. J'étais assez inculte dans le cinéma. Et on me disait, ah, Visconti, c'est un grand monsieur, il faut aller le voir, l'italien, comme ça. Je dis, j'étais désolé, monsieur, mais je ne peux pas jouer ça, c'est pas moi. Je suis une fille de 23 ans, et cette femme, avec tout ce qu'elle doit subir, avec deux enfants assez grands, ça ne va pas être crédible. C'était tellement mignon, cette histoire. Mais il dit, fais ça. L'âge ne compte pas dans le cinéma. Je vois tout derrière vos yeux. Vous pouvez jouer ce que vous voulez. Et avec moi, à vos côtés, vous allez voir. On va jouer ce rôle. Vous allez le faire avec moi. Je ne peux pas supporter que vous me dites non. Et donc, voilà, la fusion a été faite.
Ça a fixé un cap, ça.
Oui, bien sûr. Et ça a fait de moi qui je suis, tout ça.
Ça a fait de vous qui vous êtes.
Oui, parce qu'en fait, il dit, vous pouvez choisir la qualité. Vous pouvez choisir l'intégrité. Vous pouvez choisir le vrai respect pour ce que c'est la création. Hollywood fait des très bons films, mais il y a autre chose aussi. Nous, on fait des films qui sont psychologiquement très, très, très riches. Eux, ils racontent des belles histoires. Mais nous, il y a des choses très vraies dans ce qu'on fait. Et vous êtes quelqu'un de très vrai, vous le savez. Je savais ça, parce que j'avais une sorte de quête de vérité. Donc voilà, si vous avez quelqu'un qui vous révèle ça très jeune, il devient votre maître.
Vous n'avez jamais été chercher des cinéastes ?
Jamais, je ne pourrais pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu demander, presque quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je ne peux pas demander. Comme je suis peut-être connue à cette époque, il va se dire, ah oui, bah, je vais être bankable, et peut-être, oui, c'est bien d'avoir elle dans le film, pas pour les raisons vraies encore, pas pour son désir à lui, parce que c'est moi, je suis l'unique, je suis le seul qui peut faire ce rôle.
Ça nous conduit à parler d'un film en particulier, c'est Sous le sable. Parce que Sous le sable, ça a été le début d'autre chose.
Oui.
Pour vous.
Oui.
Tu dors pas encore ?
Mais tu vois, je t'attendais.
Sous le sable, de François Ozon, sort en 2000. Charlotte Rampling y est en couple avec Bruno Kremer. Ils s'appellent Jean et Marie. Un jour, Jean disparaît sur une plage et on ne retrouve pas son corps. Marie s'enferme alors dans une folie douce et refuse de croire à sa mort.
T'as dîné ?
Non.
Tu veux que je te prépare quelque chose ?
Non, c'est pas la peine. J'ai pas faim.
C'est bien. Comme ça, tu maigriras un peu.
Ben, c'était le début de retrouver les désirs pour faire du cinéma.
Vous l'aviez perdu ?
Oui, pendant des longues années. C'était une forme de grande dépression, mais des dépressions utiles qu'on doit confronter, vraiment ses démons, le milieu de sa vie, dans la quarantaine, beaucoup de gens ont ça. Et c'est une vraie recherche de soi-même qui fait justement que vous allez rentrer peut-être dans une nouvelle ère quand vous rencontrez dans les cinquantaines. Et donc, toutes ces dizaines d'années-là, dans les années 90, aussi je me séparais de mon mari à cette époque-là, qui était incroyablement douloureux, parce qu'on s'aimait beaucoup, mais on savait qu'il fallait qu'on fasse des chemins séparés pendant un moment, etc. Et il fallait un vrai coup de foudre, un vrai rencontre, et c'était François Ozon. Comme par hasard, c'est mon agent qui a vu ses courts-métrages, et là, c'est une femme, Elisabeth Tannard. Elle savait qu'il fallait vraiment m'aider pour trouver, parce que je disais non à tout. Non, 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 non. Et c'était ce rencontre-là, dans un café, je me souviens, c'était à la Place Lalma, et je rentre dans le café, il était là, avec son agent.
François Ozon.
François Ozon. Et on se regardait. C'était comme si je regardais quelque chose que j'avais toujours connu. Et c'est peut-être ça le coup de foudre avec des gens, le coup de foudre créatif, coup de foudre en amour, quand il y a une sorte de « you recognize something ». Et je savais que je pouvais m'attacher à cette personne. Et donc le désir revient, parce que vous avez rencontré un ami, vous avez rencontré quelqu'un. Même si lui ne comprend pas, il n'est pas là pour comprendre, mais il sait que lui, il me veut et moi, je le veux. Et on devait faire un film ensemble, donc on a commencé. Sans rien, sans machin, sans truc, sans argent, sans juste que, bah, fait sous le sable. C'est comme si c'était le plus petit film qui pourrait exister au début.
Pour moi, il se passe deux choses avec ce film. C'est-à-dire qu'avant, les personnages que vous avez incarnés, c'était des femmes qui étaient en dehors du quotidien. Mm-hmm. Avec Sous le sable, ça change. Mm. Vous êtes une femme du quotidien avec Sous le sable.
Et donc, c'est ça qu'il m'a demandé. Dans le café, il dit, est-ce que... Bon, premièrement, est-ce que vous portiez un maillot de bain dans le film ? Je dis, quoi ? Oui, parce que vous avez un certain âge, mais oui, je viens d'avoir 52 ans. Oui, mais vous êtes... Tout ça, j'ai adoré. Parce qu'il est comme un petit ange, là, comme vous le connaissez. Il est toujours très souriant et très, très sympathique, très facile à parler avec. Et donc, on a ri. Et je dis, oui, je pense, oui, maillot de bain, très bien, oui, je peux porter ça. D'autres questions, je dis. Et il dit, oui, parce que je veux montrer quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, jeune homme, que je n'ai jamais fait ? Et il dit, passez l'aspirateur. Ah, je passe beaucoup, oui, c'est vrai. Mais, par exemple, vous le passez dans une scène, comme ça, si vous vous occupez de votre maison. Ah, je dis, ah, ok. Je vois où vous en venez. Et donc, on a beaucoup ri et tout ça. C'est juste quand vous rencontrez quelqu'un que vous savez, avec cette personne, vous allez grandir de toutes les façons. Donc, vous allez avoir accès aux prochaines étapes dans votre vie, dans votre évolution personnelle. Et donc, je savais que même il me faisait faire la lessive, faire le machin, avoir des bébés, machin. Je savais qu'en moi, Je serai toujours la même personne à l'intérieur avec le chemin vers là où je dois aller, toujours intact d'une certaine façon. On ne pouvait pas casser ça en moi.
Et cette intégrité dans Sous le sable, elle existe aussi par le fait que vous êtes à nu. C'est-à-dire votre visage. Enfin, là vous racontiez l'anecdote du maillot de bain.
Oui.
Mais très peu maquillée.
Oui.
Une femme de 52 ans filmée comme ça, il y avait presque un côté brut, en fait.
Oui.
Qui était nécessaire, là. On enlève tout. Il n'y a plus de jeu, là. Il y a juste l'être lui-même.
Il n'y a plus de jeu, mais il y a beaucoup de non-dits.
Oui.
Est-ce que ça vous intéressait?
Oui. J'ai beaucoup de non-dits, de toute façon. J'ai toujours beaucoup de non-dits. En fait, c'était seulement dans les interviews que je parlais. Et les gens, là, ils se demandaient, « Ah, mais vous aimez faire les interviews ?»« Ben oui, parce qu'on me pose des questions et on veut écouter mes réponses. » Parce qu'on me dit, « Mais est-ce que vous parlez toujours vrai ? Vous avez les acteurs américains, ils ont des réponses. » Ben, je dis, « Non, mais je parle toujours vrai, moi. » Même, je ne pense pas, est-ce que c'est bon de dire ça ou bon de ne pas dire ça ? Non, c'est le moment où je suis le plus vrai, j'ai dit.
La dernière séquence de cette émission, c'est une séance photo avec un Polaroid.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui.
Ok. Vous êtes prête ?
Oui. C'est magnifique cet appareil. Parce que j'ai toujours aimé, mais j'ai pas... Donc ils font ça maintenant. Parce que les Polaroids, il fallait pas que ça meure, ça. Hein. Oui.
Vous parliez d'intégrité, et pour terminer, vous n'avez jamais été attirée par votre image ? Par votre propre image?
C'est dans ma boîte à code. Très jeune. La chose que je dis, ah oui, moi c'est bien. Bon, il ne faut surtout pas trop s'en occuper. Hein. Et il faut lire aussi Hollywood Babylon, très jeune. Vous voyez ce que ça fait quand les gens deviennent trop attirés par leur image. C'est la descente aux enfers. On n'a pas le droit.
Donc vous avez réussi à ne jamais être aimanté par ça.
Je regarde et je dis, oui, c'est bien, oui, c'est bien, oui, c'est super, très belle photo. Et puis c'est tout.
Passons à autre chose.
Passons à autre chose, oui.
Celle-ci est développée.
Ah, ça, c'est un petit visage maintenant, moi.
Vous trouvez que vous avez un petit visage?
J'ai pas un grand visage. Et quand je le vois, parce que là, les cheveux sont très courts, c'est... ça va.
Merci beaucoup, Charlotte Rampling.
Merci beaucoup, Rebecca. C'était un plaisir.
Charlotte Rampling est à l'affiche de Deux pianos d'Arnaud Desplechin avec François Civil et Nadia Tereskevitch. Quant à Adèle Exarchopoulos, que vous avez entendue dans la première partie de ce totémique, elle joue dans Chien 51 de Cédric Jiménez. Les deux films sont en salle en ce moment. Koy Nguyen, Stéphane Le Guenec et Guillaume Giraud ont réalisé cet épisode de Totemic avec David Diboué-Black ce matin. L'équipe réunit aussi Perrine Malinge, Ilinka Negulesco et JB Audibert. La semaine prochaine, je vous emmène sous une affiche d'un film de Godard dans le bureau de Jérôme Commandeur.